nous nous retrouvons pour une série
consacrée. Nous attachons à quatre faits marquants de votre vie.
Passer une demi-heure ensemble pour.
Focus braque aujourd'hui son projecteur.
Focus. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Élodie Courtejoie.
Jean Tullard, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous pour ce dernier volet de notre décryptage consacré à la bataille d'Austerlitz, dont on fête cette année le bicentenaire. C'était effectivement le 2 décembre 1805, dans les plaines de la Moravie, un froid matin d'hiver, et où le brouillard épais empêchait d'appréhender l'ennemi. Alors, Jean Tullard, vous êtes l'historien spécialiste en France de la période napoléonienne. Aujourd'hui, plus que l'académicien, c'est surtout le professeur d'histoire qui parle. Hier, nous avons évoqué les préparatifs, la veillée d'armes et puis la bataille en elle-même. Aujourd'hui, nous allons évoquer les conséquences de cette bataille, les conséquences aussi bien pour la France que pour l'Autriche ou la Russie. Alors, revenons quelques jours après la bataille, il y a un armistice qui est signé. Comment ça se passe ?
Alors effectivement, c'est une bataille qui aboutit à l'anéantissement des forces autrichiennes et vraiment des pertes considérables pour les Russes. Mais les Russes ont des réserves, ils sont encore des soldats en Russie. Mais c'est un désastre pour l'Autriche considérable, 15 000 morts. L'empereur François II doit signer l'armistice, parce qu'il reste encore évidemment des forces de l'archiduc Charles, mais qui ne seraient pas suffisantes après un tel désastre. Napoléon est maître de Vienne, de la capitale, il est maître d'Ulm, il est maître d'une partie du pays, donc alors que les Russes s'enfuient, que le tsar Alexandre s'enfuit, François II, lui, est forcé de négocier, et cette négociation sera immortalisée par un nombre considérable de tableaux montrant l'entrevue des deux empereurs, et c'est là qu'on va lancer la fameuse légende de la bataille des trois empereurs. Donc il y en a un en fuite, un qui négocie, et ces négociations vont être particulièrement dures à l'égard de l'Autriche. Napoléon ne la ménage pas, il ne va pas jusqu'à envisager le démembrement de l'Empire austro-hongrois, ce qui sera fait, je vous rappelle, au traité de Versailles. C'est Talleyrand qui le freine. Et ce sera plutôt en 1809 que Napoléon envisagera à un moment donné de faire éclater l'empire des Habsbourg. Là, on se contente de conditions particulièrement dures, une contribution de guerre énorme qui va saigner les finances autrichiennes qui n'en avaient pas besoin. Et d'autre part, les Autrichiens vont abandonner la Dalmatie et Venise au royaume d'Italie. Ce qui vous montre que Napoléon, maintenant, domine entièrement l'Italie du Nord. Si vous songez que Rome, c'est le pape, et que le pape a sacré Napoléon un an auparavant, donc Rome est censée se trouver sous influence française, il ne reste que l'Italie du Sud. Pour l'Italie du Sud, Napoléon considère que les Bourbons de Naples l'ont trahi, puisqu'ils sont entrés dans la coalition, ils ne sont pas Austerlitz, ils n'ont pas absolument rien fait. Mais ça ne fait rien. Napoléon va les détrôner d'un trait de plume, ce qui montre combien il est maître de l'Europe après cette victoire d'Austerlitz. C'est la principale conséquence de cette victoire d'Austerlitz, enfin pas la principale, mais l'une des principales, et d'un trait de plume, Napoléon déclare que les Bourbons ont cessé de régner à Naples. Et à la place, il intronise, c'est le cas de le dire, son frère aîné Joseph, qui, avec une armée, va s'emparer de Naples. Et donc, vous voyez que d'un seul coup, conséquence de la bataille d'Austerlitz, pratiquement, c'est toute l'Italie qui est déjà sous l'influence française. C'est déjà considérable. Si vous considérez aussi que depuis 1803 et l'acte de médiation, Napoléon est médiateur, plus exactement, des cantons suisses, et c'est la Suisse aussi, avec les débouchés des Alpes, donc véritablement ça. Alors l'Italie, il est maître de tous les débouchés alpins, donc l'Italie est entièrement sous son influence, fini les Habsbourg. Mais ça va aller plus loin, et la principale conséquence de la bataille d'Austerlitz, c'est la réorganisation de l'Allemagne. Car Napoléon considère que la Bavière, qui a été attaquée injustement par les Autrichiens sans déclaration de guerre et qui a essayé de résister, que le Württemberg, qui est resté aussi fidèle à l'Alliance française, doivent être récompensés. Donc, Napoléon, d'un trait de plume, fait de l'électeur de Bavière un roi de Bavière. D'un autre trait de plume, il fait de l'électeur de Württemberg un roi de Württemberg. Oui, c'est aussi simple que cela. Et donc, maître de Berg, il y nomme Murat, qui ne fait pas roi, mais qui fait grand-duc de Berg. Bref, il a sous son influence, désormais, l'Allemagne de l'Ouest et l'Allemagne méridionale.
En fait, il replace tous ses bras droits dans les zones stratégiques.
Et donc, il est maître de cette Allemagne, de la moitié de l'Allemagne, pratiquement. Et pour l'unir, il crée la Confédération du Rhin, qui réunit tous ces princes allemands du Sud, et il y a une confédération avec une capitale qui est Francfort, et un protecteur qui est lui-même Napoléon. C'est-à-dire qu'il est, vous avez vu déjà l'Italie, il est maître déjà d'une moitié de l'Allemagne. À partir du moment où il crée la Confédération du Rhin, le Saint-Empire romain germanique, qui remontait à Othon Ier, ce Saint-Empire romain germanique, vous rappelez que François Ier avait essayé de briguer contre Charles Quint, le Saint-Empire romain germanique n'a plus de raison d'être. La principale victime d'Austerlitz, c'est au fond le Saint-Empire romain germanique, cette institution si ancienne en Allemagne, qui disparaît, et on a cet exemple frappant, de l'empereur du Saint-Empire romain germanique, François II, qui se retrouve ramené empereur d'Autriche. Bon, enfin, c'est déjà pas mal, parce qu'il y a quand même la Hongrie, la Roumanie, la Tchécoslovaquie, etc. Donc, François II, qui n'est plus empereur du Saint-Empire romain germanique, mais empereur d'Autriche, et qui donc rétrograde, il était François II, comme c'est un nouvel empire, il devient François Ier. C'est un exemple assez amusant, assez frappant de, vous voyez, de l'Autriche est véritablement touchée, non pas à mort, parce qu'elle a d'énormes réserves encore, mais enfin, est terriblement touchée. C'est la grande victime de cette bataille d'Austerlitz. Et donc, l'Allemagne, maintenant, une partie de l'Allemagne, est sur la houlette de Napoléon. La Belgique. Elle, les anciens Pays-Bas autrichiens qui ont été enlevés aux Autrichiens depuis la Révolution française, la Belgique est découpée en départements français, donc elle est intégrée. Mais il y a au-delà la République batave. D'un trait de plume, conséquence toujours d'Austerlitz, Napoléon décide que la République batave n'existe plus et qu'il y a un roi de Hollande qui est son frère Louis. Et donc, Louis devient roi de Hollande. Donc, vous voyez que, là encore, pion napoléonien mis en place. Vous voyez que déjà se dessine le Grand Empire. Alors, il reste deux puissances qui n'ont pas été concernées, dont nous n'avons pas parlé, c'est la Prusse. La Prusse était prête. Finalement, un peu avant la bataille d'Austerlitz, en considérant le rapport des forces, la Prusse était prête à rallier la coalition. Et l'envoyé prussien arrive sur le champ de bataille pour apporter un ultimatum à Napoléon. Il arrive au moment où la victoire d'Austerlitz s'est dessinée. Et donc, il transforme son ultimatum, c'est un bon diplomate qui a des réflexes, il transforme un ultimatum qui aurait été catastrophique pour la Prusse, il transforme son ultimatum en message de félicitations à l'égard de l'empereur. Quant à donc la Prusse, et Napoléon fait même des avances à la Prusse, il lui propose de fédérer dans une autre confédération l'Allemagne du Nord et de s'allier à Napoléon.
Donc pour le coup, pas de démantèlement de la Prusse.
Pas de démantèlement de la Prusse. La Prusse Napoléon s'obstine à vouloir faire protéger de la Prusse une alliée, comme le Directoire avait essayé d'en faire une alliée. Depuis les conséquences désastreuses de la guerre de 7 ans et depuis Voltaire, la politique française, sauf dans le cas de Choiseul et de Talleyrand, son héritier, c'est de soutenir la Prusse contre l'Autriche. En tout cas, vous voyez que l'Allemagne, maintenant, bon, est entièrement neutralisée. Alors, il reste l'Espagne. Les Bourbons d'Espagne sont les alliés de Napoléon. La flotte espagnole a participé aux manœuvres de Villeneuve. Donc, chercher en Europe, après la bataille d'Austerlitz, disons vers le 21 janvier, prenons cette date fatidique, 1806, chercher qui pourrait s'opposer à Napoléon en Europe.
Et qu'advient-il des Russes ?
Les Russes, donc, ont battu en retraite et pansent leur plaie en Russie en attendant des jours meilleurs qui ne sauraient tarder. Car, je vous ai dit, Napoléon est véritablement le maître sur le continent européen. Il n'a que des alliés ou des puissances vaincues, mais c'est sur le continent. Il n'a pas vaincu l'Angleterre, l'Angleterre qui n'a pas été envahie par Napoléon et qui continue sa lutte, qui même vient de marquer un point décisif, c'est la bataille de Trafalgar où la flotte de Villeneuve... Oui, où la flotte de Villeneuve a été engagée une bataille contre Nelson dans des conditions déplorables, car là c'est l'inverse. C'est Nelson, alors que les guerres maritimes se faisaient par deux lignes qui se canonnaient jusqu'à ce qu'il y ait des bateaux coulés. Là, Nelson transforme cette stratégie de ligne contre ligne en faisant une colonne qui enfonce, au lieu de présenter une ligne, une colonne qui enfonce la flotte de Villeneuve. La flotte française est anéantie. Et en définitive, la victoire d'Austerlitz, qui nous fascine tant, est une victoire qui sera sans lendemain, si l'on voit sur le long terme, alors que précisément la flotte française anéantie à Trafalgar, Napoléon ne peut plus espérer vaincre l'Angleterre. Donc, ce 21 janvier 1805, Napoléon a déjà perdu la guerre contre l'Angleterre.
Et alors sur le plan économique, même si donc Napoléon a pu étendre comme ça son territoire, est-ce qu'il n'était pas par contre sur le plan économique un peu amenuisé avec cette guerre ?
Non, au contraire, parce qu'il exige des contributions de guerre. Et par ailleurs, il conquiert ainsi des marchés pour l'industrie française. Il va l'exporter. Les exportations de marchandises vont se développer en Hollande, en Italie, où on va contingenter la production de soie pour ne pas gêner la production lyonnaise. Bref, au contraire, sur le plan économique, c'est un très grand succès. Et ce qui va se passer, c'est que grisé par ses succès, Napoléon va inventer contre l'Angleterre qu'il ne peut pas vaincre sur le plan militaire, il va inventer la guerre économique, c'est-à-dire le blocus continental. Comme il est désormais, pas encore tout à fait, il faut attendre un peu, mais il faut attendre 1807. Mais en 1807, maître du continent européen, il peut le fermer aux marchandises anglaises pour provoquer l'asphyxie de l'économie anglaise, les révoltes, la ruine de la livre sterling, et donc la demande de paix par Londres. Erreur, là, erreur encore, car c'est un nouveau Trafalgar, en réalité le blocus continental, c'est une machine de guerre qui se retourne contre Napoléon à cause des privations qu'elle impose, et parce qu'elle ne touche pas les classes dirigeantes anglaises. La classe dirigeante anglaise, ce sont les landlords, ce sont les propriétaires fonciers, car avec la politique des Bourporis, les industriels, les commerçants sont écartés du Parlement. Ce sont les landlords qui dominent, donc ça ne les touche pas. Au contraire, le prix du blé en Angleterre renchérit, ils s'enrichissent par le blocus continental.
Donc finalement, la guerre d'Austerlitz, ça aura eu des conséquences à moyen terme, à long terme ?
À long terme, c'est une victoire à la Pyrrhus.
Merci Jean Tulla, merci d'avoir passé cette semaine à nos côtés. Merci et à très bientôt.
Thank you.